Vous écoutez France Culture, il est 8h et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Il n'y a plus de majorité. En Italie, Matteo Salvini veut faire voler en éclats la coalition que son parti d'extrême droite formait avec les populistes. Il demande des élections anticipées. Comment et pourquoi nous rejoindrons notre correspondante à Rome en début de journal.
Nous prendrons ensuite des nouvelles des migrants bloqués sur le navire Open Arms en Méditerranée. Le bateau humanitaire cherche un port où accoster depuis une semaine maintenant.
Combien y a-t-il de décharges sauvages en France et qui y dépose des déchets? Le gouvernement se saisit du problème après la mort du maire de Signes dans le Var. Il tentait d'empêcher un dépôt de gravats sur sa commune.
Dans ce journal encore, reportage sur un camp climat en Alsace. Un millier de personnes se forment à la désobéissance civile. Nous avons suivi un atelier.
Et puis évidemment, nous entendrons la voix de Jean-Pierre Mocky. Le cinéaste est décédé hier à 86 ans. Prolifique et grande gueule, vous l'entendrez. C'era una volta il governo. Il était une fois le gouvernement. Voici la une ce matin du quotidien italien La Repubblica, comme l'énième chapitre d'un conte, d'une fable au sommet de l'État. Le mariage impossible entre la Ligue d'extrême droite et le mouvement populiste des 5 étoiles est en train d'exploser. Le ministre de l'Intérieur, homme fort du gouvernement italien, Matteo Salvini, demande le divorce. Bonjour Marie Duhamel.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Rome. Marie, Matteo Salvini estime que des élections anticipées sont nécessaires.
Le chef de la Ligue souhaite en tout cas qu'elle soit organisée au plus vite. Matteo Salvini, déjà en campagne, a suspendu pour quelques heures hier sa tournée des plages italiennes, le temps d'annoncer au président du Conseil son souhait de redonner, dit-il, la parole aux électeurs. Il ne s'agit pas d'avoir plus de ministères, a-t-il expliqué, mais d'aller de l'avant sans être constamment bloqué par des querelles. Il y a encore deux jours, le mouvement 5 étoiles avait réaffirmé au Parlement son opposition au projet de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin défendu par la Ligue. Les sujets de désaccord ne manquent pas. Ils portent donc sur les projets d'infrastructure, mais aussi sur les politique fiscale, énergétique, les rapports avec Bruxelles. La presse italienne s'est fait un temps l'écho de conditions posées par Matteo Salvini pour rester au sein de la coalition. Il aurait demandé la démission de 3 ministres du mouvement 5 étoiles, ne mettant pas assez de zèle à appliquer ses politiques, sans les obtenir, ce qui pourrait expliquer sa décision.
Alors Marie, que peut-il maintenant se passer? Y aura-t-il des élections rapides ou un gouvernement technique?
Alors pour l'instant, le gouvernement tient encore à un fil. Le président du Conseil n'a pas démissionné. Giuseppe Conte exige avant tout que Matteo Salvini explique au Parlement pourquoi il veut faire chuter son gouvernement. Autant dire qu'à ce stade, tout remaniement entre les deux alliés populistes semble exclu. Le départ de Giuseppe Conte est vraisemblable. D'intenses tractations vont être conduites par le président de la République pour voir comment former une nouvelle majorité parlementaire sans grand espoir. Le plus probable est la mise en place d'un gouvernement apolitique pour organiser des élections anticipées. La presse italienne spécule d'ailleurs déjà sur la date du scrutin.
Merci beaucoup Marie Duhamel en direct de Rome ce matin pour France Culture. Et voici l'une des raisons pour lesquelles Matteo Salvini convainc encore son électorat en Italie. Le chef de file de l'extrême droite se montre intraitable sur les questions d'immigration, refusant l'arrivée dans le pays des navires humanitaires avec eux et avec eux des centaines de migrants sauvés des eaux. Ainsi, alors que l'Ocean Viking, avec SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, se dirige toujours vers les côtes libyennes, le navire Open Arms veut, lui, rentrer au port. Mais quel port? Affrété par une ONG espagnole, il tourne en rond depuis une semaine avec 121 migrants à son bord, Élise Delève.
Bloqué dans une immensité bleue, l'Open Arms n'est pourtant qu'à quelques dizaines de kilomètres de l'île italienne de Lampedusa. À bord, 121 migrants, dont 2 bébés et 30 mineurs. Ils vivent depuis plus d'une semaine sur le pont du bateau, leur gilet de sauvetage en guise de coussin. Le navire humanitaire espagnol s'est vu refuser mercredi le droit de débarquer à Malte et en Italie. Annabelle Montes, chef de mission sur l'Open Arms, envoie tous les jours des vidéos sur Twitter pour évoquer la situation des réfugiés.
Plus le temps passe, plus il est difficile de leur expliquer pourquoi on n'accoste pas, leur expliquer pourquoi on ne les mène pas vers un port sûr où leur vie ne sera plus en danger. Plus le temps passe, plus ils sont anxieux, nerveux, et on ne veut pas arriver au point où la situation devient incontrôlable. La politique ne peut pas être au-dessus de l'humanité. Nous rappelons qu'il y a urgence à trouver un port sûr où nous pourrons débarquer ces personnes en respectant les conventions et les accords internationaux. notamment la déclaration des droits de l'homme et le droit à la vie.
L'Open Arms attend une solution similaire à celle trouvée pour les bateaux Alan Kurdi et Gregoretti la semaine dernière. Les 170 migrants sauvés par une ONG allemande et un bateau des gardes-côtes italiens ont été répartis sous l'égide de la Commission européenne. 5 pays, dont la France, se sont portés volontaires, ce qui a permis aux migrants de débarquer après des jours en mer. 5 pays, c'est une avancée dans la collaboration européenne voulue par une partie des États membres, mais c'est beaucoup moins que ce qu'espérait Emmanuel Macron. Pour tenter de trouver un mécanisme de solidarité plus efficace, le président français avait reçu fin juillet le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, ainsi que le directeur de l'Organisation internationale pour les migrations. Il avait alors annoncé avoir trouvé un accord avec 14 pays.
Et avant que cet accord soit signé et mis en pratique, le président du Parlement européen s'inquiète de la situation de l'Open Arms en ce moment. David Sassoli vient d'envoyer un courrier à la Commission européenne pour lui demander d'agir. Une fois en Europe, ensuite, ils sont quelques migrants à être accueillis en France. Voilà ce que nous disait Élise Delève à l'instant. Quelques mineurs notamment qui grandissent, qui vieillissent et qui deviennent logiquement ensuite des majeurs. Quel accueil leur est alors réservé. Dans le Loiret, une centaine de migrants pourraient bientôt se retrouver sans toit. Ayant atteint l'âge de 18 ans, ce n'est en effet plus le conseil départemental qui les prend en charge, mais l'État, via la préfecture, s'engage alors un bras de fer politique et en attendant, les 135 jeunes migrants dans le Loiret pourraient ne plus avoir d'hébergement à la fin du mois, Hugo Charpentier.
Ils sont originaires pour la plupart d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Albanie ou d'Asie. Des jeunes mineurs lorsqu'ils sont arrivés à Orléans il y a quelques années. À l'époque, ils sont donc pris en charge, comme la loi le prévoit, par le département du Loiret. Mais aujourd'hui, la barre fatidique de leurs 18 ans leur tombe dessus comme un couperet. Le département n'est plus responsable et l'État, censé prendre le relais, s'y refuse. Marie-Noëlle Vitry, membre de la CIMAD à Orléans.
On n'arrive pas à imaginer qu'un tel nombre de jeunes se retrouvent sur le trottoir du jour au lendemain. C'est absolument impensable.
Cette situation de blocage dans le Loiret n'est pas isolée. La tension monte un peu partout en France entre les services de l'État et les départements qui se disent dépassés. Depuis 2014, le nombre de mineurs isolés étrangers pris en charge est passé de 4 000 à 40 000. Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile.
C'est pas la première fois et je pense que d'une manière générale, c'est une crispation de plus en plus importante entre un certain nombre de départements et l'État. Évidemment, la solution est de se mettre autour d'une table. On ne peut pas simplement dire bon, on va se débarrasser de ces jeunes qui vont aller grossir les campements de rue ou les squats si une telle décision était maintenue. Ce n'est pas tenable et ce n'est pas souhaitable.
Se mettre autour d'une table, la préfecture et le département du Loiret assurent que c'est déjà le cas. 82 de ces jeunes auraient ainsi obtenu un titre de séjour temporaire qui ouvre la voie vers des prestations sociales. Une avancée qui reste toutefois insuffisante pour trouver seul un logement. C'est ce qu'estiment de leur côté les associations.
Et à propos de cette situation dans le Loiret, le défenseur des droits Jacques Toubon a ouvert une enquête. Après l'hommage public en présence de 400 habitants du village varois de Signes hier, les obsèques du maire de la commune auront lieu ce matin. Seront notamment sur place le président du Sénat, Gérard Larcher, ainsi que Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires. Les drapeaux des mairies un peu partout en France seront en berne. Plus de 2000 personnes seraient attendues tout à l'heure pour ce dernier hommage au maire de Signes, mort dans l'exercice de ses fonctions, je vous le rappelle, alors qu'il tentait en début de semaine d'empêcher deux hommes de déverser des gravats dans une décharge sauvage. Et ces dépôts illégaux de déchets sont assez fréquents en France. Pour tenter de les diminuer, voire au mieux de les supprimer, la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson réunira à la fin du mois les professionnels du BTP. L'idée est de mieux organiser la filière car les décharges sauvages seraient dues en grande partie aux entreprises du bâtiment, Antoine Ferreira.
Elles sont à Aix-en-Provence, à Lyon ou à Saint-Sauveur. Selon des témoignages, il y en aurait plus de 600. Et pourtant, aucun chiffre officiel ne précise combien de décharges sauvages sont présentes sur le territoire. Toutefois, selon plusieurs associations, le plus gros des déchets serait lié à la construction, comme l'explique Anthony Effroy, président de l'association Rives de Seine Nature Environnement.
On se retrouve avec des déchets qui sont à 95% composés matériaux du BTP. En fait, on est dans une région quand même aujourd'hui, Île-de-France, où on a énormément de chantiers, en particulier dans le cadre du Grand Paris. Et on a des structures, si vous voulez, de traitement aujourd'hui qui sont insuffisamment calibrées. Et malheureusement, des dispositions législatives qui ont été édictées ne sont pas suffisamment respectées.
L'association a mené plusieurs enquêtes dans la plus grande décharge illégale connue à ce jour en France, à Carrières-sous-Poissy, près de Paris, où se concentrent près de 7000 tonnes de déchets. Le problème viendrait du système actuel inopérant. En effet, dans beaucoup de régions, les entreprises doivent parcourir plusieurs kilomètres pour avoir accès à une déchetterie payante. La loi anti-gaspillage, discutée au Parlement à la rentrée, prévoit la création d'une filière pollueur-payeur sur les déchets du bâtiment et la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson veut renforcer le pouvoir des maires, les premiers concernés par ces décharges sauvages.
Ces précisions étaient signées Antoine Ferreira.
Il est 8h10 sur France Culture, c'est le journal de Clara Lecoq-Réal. Il faut agir vite, disent les experts du climat de l'ONU.
Changer rapidement notre gestion des terres, la production agricole ainsi que notre alimentation. Sans cela, la planète sera perdue. À terme, disent les experts, nourrir 10 milliards d'habitants se fera forcément au détriment du climat. Le rapport du GIEC publié hier précise qu'entre 2007 et 2016, 23% des émissions nettes de gaz à effet de serre étaient liées à l'activité humaine. En y ajoutant les industries de transformation des aliments, cette part monte à 37%. Préserver notre planète et le climat, c'est aussi l'objectif du millier de personnes réunies depuis 10 jours en Alsace, au nord de Mulhouse, à Kingersheim. Un camp climat est organisé par les associations Alternatiba, les Amis de la Terre et ANV COP21. 300 ateliers théoriques ou pratiques sont proposés pour former au militantisme et à l'activisme écologiste. Cela va de la stratégie de communication à la désobéissance civile. Fiona Mogadam, a suivi l'un des ateliers pratiques d'action non violente.
En guise de décor, un gymnase prêté par la commune de Kingersheim. Les acteurs, 25 personnes, dont la plupart n'a jamais mené d'action de désobéissance civile. Le scénario, s'inviter à une assemblée générale du groupe Total.
Greenpeace, depuis déjà longtemps, cherche à s'opposer au forage que cherche à faire Total au large des côtes du Brésil. Et nous, notre objectif, ça va être prendre la parole.
Un groupe est désigné pour la sécurité, l'autre pour faire les militants. Chacun élabore son plan d'action.
On peut faire diversion au niveau de cette entrée.
C'est parti !
Alors les activistes font pression sur la sécurité pour entrer dans la salle.
On ne pose pas, s'il vous plaît.
Les vigiles sont débordés.
On se calme, on se calme.
Et la mission accomplie, les militants ont pris le micro. Après l'exercice, chacun donne ses impressions sur cette action et les limites qui ne sont pas toujours évidentes à assimiler.
Parmi les critères de non-violence, on n'est pas censé toucher en fait et entrer dans un contact physique. Et là, pour passer le barrage de vigile, on est vraiment dans une confrontation, on n'est pas mou, on est tonique.
Il peut y avoir un contact, un effleurement, un bousculement éventuellement. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas d'agression physique de notre part envers les personnes.
Anne-Sophie est l'une des formatrices du camp climat.
Ce qui est difficile, c'est de se connaître soi-même en action, savoir jusqu'où on peut tolérer la violence qui peut nous être renvoyée. C'est une position, une attitude non violente qui est fondamentale pour nous.
Quant au risque comme celui d'être interpellé ou de comparaître devant un tribunal, ils sont aussi abordés, mais ils n'effraient pas Théotime, un étudiant de 20 ans venu pour la première fois à l'initiative de ses parents.
Dans le pire des cas, un casier judiciaire, c'est pas non plus la mort, surtout dans un événement comme ça. Je pense que dans 15 ans, ce sera même plutôt vu comme positif plutôt que de ne pas en avoir et n'avoir rien fait.
Car c'est bien le discours ici, face à l'urgence climatique, les petites initiatives personnelles en faveur de l'écologie ne sont plus suffisantes.
C'était Fiona Mogadam pour France Culture. Infatigable réalisateur et comédien, Jean-Pierre Mocky a lâché la caméra. Il est mort hier à l'âge de 86 ans, infatigable et impertinent, libre en tout cas, libre de tout dire. Jean-Pierre Mocky avait un fort caractère sur les plateaux de télévision et de tournage. Preuve en est cette séquence bien connue de l'émission Striptease, tournée lors de la réalisation de La Candide Madame Duff. En 2000, Striptease lui avait consacré un reportage intitulé Le parapluie de Cherbourg. Vous allez comprendre pourquoi.
Préparation terminée, tournage. Putain, ça y est, vous êtes prêts ?
Voilà, et tu
attention,
te retournes.
Il commence à pleuvoir. Apportez un parapluie pour elle. Allons-y maintenant. Ben oui, mais maintenant, elle va attraper une saucée avec moi. On ne pourra pas tourner, il faudra nous sécher. Ça va durer jusqu'à demain. Faisons-le, putain. Allons-y. Où est-ce qu'il y a des parapluies? Cette conne d'Hélène, elle comprend pas qu'il faut des parapluies, là. Elle pourrait en demander deux. On est à Cherbourg, il y a plein de parapluies. Oh, nom de Dieu, oh. Bon, allez, moteur. Moteur, allons-y, il pleut. Oh merde, tiens, on pourra pas le faire. Pourquoi on tourne pas tout de suite? Pourquoi on fait toutes ces simagrées? Alors ça y est? Où est-ce qu'il est, ton Perchman? Vous êtes complètement tapé ou quoi? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Il est con, celui-là aussi. Oh. Allez, voilà, moteur.
Dans 30 secondes, on raccorde absolument.
Allez, moteur. Moteur, moteur, moteur! Voilà. Oh putain, moteur !
La gouaille de Jean-Pierre Mocky et le fou rire dans le studio de France Culture ce matin. Jean-Pierre Mocky avait 86 ans, tourné dans ce reportage de striptease qu'on vient d'entendre, reportage réalisé par Manolo D'Artuis. Jean-Pierre Mocky a fait tourner les plus grandes stars du cinéma. Benoît, vous riez ce matin. Oui. Jean-Pierre Mocky avait 86 ans, il a tourné avec Bourvil, Fernandel, Poiret, Serrault ou Catherine Deneuve. Et à partir de 8h30, nous rirons peut-être encore. Nous lui consacrerons en tout cas une demi-heure sur France Culture avec trois invités. Avant cela, quelques mots de météo. Pour ce vendredi, une perturbation pluvieuse et orageuse va traverser le pays. D'abord ce matin, de la Lorraine au Pays de la Loire en passant par l'Île-de-France. Elle touchera dans l'après-midi la région Auvergne-Rhône-Alpes, le centre et les Pyrénées. Au sud-est, le temps restera sec et ensoleillé. Comptez ce matin 22 degrés à Nantes et à Lille, 24 à Paris, 26 à Besançon et Bordeaux, 28 degrés ce matin à Périgueux, à Lyon et à Marseille.